Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous accueillir pour notre dernière conférence. Je rappelle que notre Assemblée Générale Statutaire aura lieu le 24 juin, dont vous recevrez une convocation, qu'elle sera, comme toujours, précédée ou suivie, je ne sais plus, du verre de l'amitié. Nos activités pour l'année universitaire 2008-2009 débuteront vraisemblablement au mois d'octobre. Vous recevrez le programme au mois de septembre. Nous aurons, comme d'habitude, des conférences. Nous aurons la cérémonie traditionnelle du mois de décembre en hommage aux Juifs de Tunisie déportés pendant l'occupation allemande de la Tunisie. Et cette année, cette cérémonie sera, indépendamment de la partie au mémorial, suivie d'un dépôt de plaques à la mémoire de tous les déportés de Tunisie et qui aura lieu à la synagogue de Belleville. J'avais demandé à ce que ça se passe cette année, j'avais demandé l'autorisation au consistoire. Je n'ai jamais reçu de réponse du consistoire. Et finalement, j'ai vu le président de la communauté de Belleville, nous prenons la responsabilité d'apposer cette plaque sur dans l'auditorium de la synagogue de Belleville, puisque c'est une synagogue de rite tunisien, c'est la synagogue de rite tunisien totale. Donc nous aurons là une plaque à la mémoire des déportés juifs de Tunisie.
Déportés morts en déportation.
Nous aurons aussi un grand événement l'année prochaine, c'est le colloque dont je vous ai déjà parlé, qui aura lieu au mois de novembre, du 3 au 6 novembre, à la Sorbonne. L'originalité de ce colloque est qu'il n'est pas seulement consacré à l'histoire des Juifs de Tunisie. C'est un colloque qui a pour thème les Juifs du Maghreb, de l'époque coloniale à nos jours, histoire, mémoire et écriture du passé. Il y aura une tentative d'histoire comparée du développement des Juifs des trois pays du Maghreb durant l'époque coloniale jusqu'à après la colonisation, puisque nous arrivons jusqu'à nos jours. Nous étudierons également la littérature sur la littérature contemporaine, sur les Juifs d'Afrique du Nord et leur comportement religieux et politique dans la France d'aujourd'hui et dans l'Israël d'aujourd'hui. Et l'un des moments forts de ce colloque sera un état des lieux de la recherche sur les Juifs du Maghreb en France, en Israël, aux États-Unis, mais surtout dans les trois pays du Maghreb. Pour la première fois, nous allons vraiment avoir un état des lieux. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est la façon dont, actuellement, on écrit l'histoire des Juifs dans les pays du Maghreb. On ne l'écrit pas. Ce qui va m'intéresser, c'est la façon dont, à l'université, on étudie, où on lance des étudiants sur des travaux consacrés à l'histoire des Juifs. Il y a de nombreux travaux en Tunisie, un tout petit peu au Maroc, ou alors en Algérie, ce sont des choses plutôt polémiques. Mais nous aurons trois universitaires algériens qui très courageusement ont accepté de venir. Ce colloque doit se tenir. Ce sera un grand événement. C'est quelque chose qui a été voulu par notre maître à tous, le Marabin Sirat, il y a quelques années. Nous réalisons son vœu, son souhait, et j'espère que nous pourrons lui offrir ce grand moment. Et nous offrir aussi ce grand moment. Je lance l'appel parce que un colloque, ça coûte très cher. Il faut financer les voyages des conférenciers, il faut les héberger, il faut louer des salles, il faut les nourrir. Nous sommes subventionnés très largement et très généreusement par le ministère français des Affaires étrangères, qui soutient totalement notre projet. Nous avons aussi d'autres financements publics et parapublics, la culture, les universités, la fondation de la Shoah. Nous avons dans notre budget prévu de faire appel pour une petite partie à des sponsors, à des mécènes. Alors, je ne connais pas de mécènes algériens, je ne connais pas de mécènes algériens, ils existent probablement. On m'a donné des noms, nous avons envoyé des dossiers. Si vous avez des noms, des possibilités, nous avons besoin pour faire ce colloque de 5000 euros. Alors, 5000 euros, ce n'est pas une grosse somme, mais si vous connaissez des mécènes, donnez les noms, nous sommes tout à fait d'accord pour leur envoyer des dossiers. Maintenant, je vais laisser la parole à nos conférenciers. C'est une conférence un peu particulière, puisque d'habitude, nous n'avons qu'un conférencier. Là, nous avons deux conférenciers qui se sont partagés le travail. Je ne sais pas comment ils ont alterné. Enfin, je ne puis porter témoignage, puisque ils ont eu la délicatesse de me faire part de leurs conclusions avant cette conférence, qu'ils ont vraiment travaillé à deux. Et ce sont l'un et l'autre des jeunes doctorants. Ils préparent l'un et l'autre une thèse. Ils ont fait d'excellentes études. Nous les connaissons parce que, indépendamment de leurs études, ils veillent sur les archives de l'Alliance israélite et nous communiquent, lorsque nous faisons appel à eux, des dossiers qui nous intéressent pour nos propres recherches. Nous avons voulu l'année dernière rénover un petit peu la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie, parce que ça ne doit pas être une société mémoriale, c'est une société mémorielle, c'est une société de recherche. Donc nous avons besoin de jeunes, nous avons besoin de jeunes étudiants, de jeunes doctorants. Ariel a bien voulu nous rejoindre d'abord, ensuite Sophie, je les en remercie, l'un et l'autre, ils ont déjà pris la parole au colloque de 2005 sur l'Alliance israélite. Ils vont prendre la parole aujourd'hui, je suis sûr qu'ils vont nous apprendre beaucoup de choses, mais je compte aussi sur eux pour rajeunir par leur présence et aider à ce que notre société puisse pénétrer auprès des jeunes, parce que c'est son avenir et c'est aussi l'avenir de cette histoire des Juifs de Tunisie qui nous passionne et qui est à écrire, qui n'est pas encore totalement écrite malgré tout ce qui est paru. Et quand chaque année je vais en Tunisie et je vois l'ouverture de nouveaux fonds d'archives, je me dis qu'il faudrait 20 ans, 30 ans, 40 ans pour étudier tout cela. Alors, place à la jeunesse et je leur donne la parole.
Merci. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je vais ouvrir le bal pour cette conférence qui est consacrée à la vision d'Israël à travers la presse communautaire de Tunisie, donc des années 48 à 50, et donc une conférence, comme M. Nataf l'a dit, préparée par Ariel et moi-même. La perspective de la création d'Israël, la naissance d'Israël, mais aussi les difficultés de ce pays à ses débuts sont autant d'événements qui ont passionné les Juifs du monde entier, nourrissant des débats sans fin au sein de chaque communauté. L'étude de la presse communautaire de Tunisie aux alentours de 1948 permet de cerner le regard porté spécifiquement par les Juifs de Tunisie sur Israël. Au moment de la création de l'État juif, le principal journal communautaire est la Gazette d'Israël, dont le comité de rédaction, fort de 6 membres, se compose alors à parité de Tunisiens et de Français. Raymond Cohen, Jacob Pérez, Jacques Sebag sont les Tunisiens membres du comité de rédaction de la Gazette d'Israël. Albert Bismuth, Victor Aouzi et André Samama sont Français. À partir du 3 mai 1950 paraissent les Nouvelles Juives, fondées par Isaac Abouaf, riche négociant en céréales, originaire de Turquie. Enfin, La Vie juive, le bulletin de la section française du Congrès juif mondial, publie régulièrement des articles au sujet des communautés juives d'Afrique du Nord. C'est donc à partir de l'analyse de ces trois périodiques que nous entendons dresser le tableau des débats qui ont animé la communauté juive de Tunisie au sujet d'Israël entre 1947 et 1950. Pour ce faire, nous nous proposons donc dans un premier temps de rappeler brièvement le contexte dans lequel s'inscrit notre travail, donc c'est l'objet d'une première partie. Ensuite, nous procéderons à une étude analytique de la presse juive tunisienne au début d'Israël. Et pour finir, nous essaierons de faire un petit peu un bilan de l'évolution des idées sionistes en Tunisie après la création de l'État hébreu. Donc je laisse la parole à Ariel qui va donc vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit notre étude.
En effet, si la perspective de la création d'un État juif en Palestine emplit de joie le cœur de la plupart des juifs dans le monde entier et donc y compris en Tunisie, elle n'en est pas moins source de débat au sein de ces différentes communautés en raison des conditions dans lesquelles s'opère cette renaissance d'un État juif en Palestine. Aussi, afin de mieux cerner les ressorts des prises de position de la presse communautaire de Tunisie vis-à-vis d'Israël, apparaît-il opportun de revenir brièvement sur le contexte dans lequel elles s'inscrivent, ce qui suppose de rappeler les événements ayant accompagné la naissance d'Israël, les différents courants de pensée qu'inspire le sionisme, et enfin la place du sionisme en Tunisie à l'aube de la création de l'État hébreu. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle 27 000 juifs palestiniens ont participé aux côtés des Britanniques, la situation est particulièrement tendue en Palestine. Le conflit entre juifs et arabes prend rapidement de l'ampleur, tandis que les Britanniques font preuve d'une hostilité toujours plus grande à l'égard du Yishuv, empêchant notamment l'immigration des juifs en Palestine. Les combats entre juifs et arabes et entre juifs et britanniques sont de plus en plus nombreux, rendant la position de la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, toujours plus précaire, à une période où le mouvement de décolonisation émerge déjà. En effet, je rappellerai que l'Inde devient indépendante dès 1947. À la demande de la Grande-Bretagne, l'Organisation des Nations Unies, nouvellement créée, se saisit du problème palestinien. Le rapport de la commission d'enquête mise en place par l'Assemblée générale de l'ONU en avril 1947 propose la création de deux États, l'un juif, l'autre arabe, et l'internationalisation de Jérusalem. Finalement, après des négociations passionnées, dans la nuit du 29 novembre 1947, le plan de partage est adopté par 33 voix contre 13 et 10 abstentions et entérine donc la création d'un État juif indépendant en Palestine pour la première fois depuis 20 siècles. Je rappellerai seulement que la France ne vote finalement ce plan de partage qu'après une décision de dernière minute, grâce à une initiative personnelle de Léon Blum, le grand leader socialiste de l'époque, qui se rend auprès du ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, le suppliant littéralement de soutenir la création de ces deux États, arabes et juifs. Le plan de partage est entériné et une commission de 5 personnes, mais qui n'a en fait aucun réel pouvoir, est chargée d'appliquer la décision. Dès décembre 1947, au lendemain de ce vote, la guerre entre juifs et arabes devient de plus en plus violente, les arabes étant consternés par l'adoption de ce plan de partage. La situation du Yishuv est catastrophique, car l'immigration et l'importation d'armes sont toujours interdites par les Anglais qui restent au pouvoir en Palestine. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Deux jours avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, Jérusalem est encerclée par les Arabes et il est impossible d'en sortir, à tel point que les chefs sionistes qui veulent se rendre à Tel Aviv pour entendre la déclaration d'indépendance par Ben Gurion sont obligés de prendre un avion de Jérusalem jusqu'à Chypre, de Chypre jusqu'à Londres, puis enfin de Londres à Tel Aviv pour rejoindre le musée où est proclamée l'indépendance. Finalement donc, le vendredi 14 mai 1948, il y a donc très exactement 60 ans, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Cette date marque également le début de cette première guerre israélo-arabe qui ne prendra fin qu'à partir de janvier 1949 avec la signature d'accords d'armistice entre les belligérants. Dès la fin du XIXe siècle, alors que l'État juif ne constituait qu'un projet, le sionisme politique a été source de débats dans toutes les communautés juives de diaspora, débats dont il serait vain de faire ici le récit. En revanche, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à quelques nuances près, la nécessité de créer un État juif apparaît aux yeux de tous comme évidente, ne serait-ce que pour accueillir les 100 000 personnes déplacées, ces anciens déportés juifs qui vivent encore dans d'anciens camps nazis, plusieurs mois, plusieurs années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ne peuvent ou ne veulent revenir dans leur pays d'origine, la Pologne, le bloc communiste, etc. Toutefois, au-delà de ce relatif consensus, les querelles politiques sont nombreuses, notamment au sein du Yishuv lui-même. Deux principales tendances s'y opposent, la tendance socialiste, dirigée par David Ben-Gourion, et la tendance révisionniste de l'Irgun, la future droite israélienne, favorable à une guerre à outrance contre les Arabes et les Britanniques. Ces conflits idéologiques sont également visibles en diaspora. Ainsi, alors qu'en France, le principal journal sioniste, La Terre Retrouvée, est favorable à David Ben-Gourion, il n'en est pas de même en Tunisie. En 1946, au moment où commence notre étude, la communauté juive de Tunisie est majoritairement ancrée dans le sionisme et se caractérise en particulier, et c'est ce qui en fait toute sa singularité, par un important courant révisionniste dont il convient de faire la genèse avant de procéder à notre analyse. Le courant révisionniste de Tunisie prend naissance au début des années 1920, relativement tôt donc, à partir d'un noyau dur créé à Sfax par des militants extrêmement actifs, Félix Alouche et deux frères, Élie et Ephraïm Louzoun, fils de Nissim, commerçant très pratiquant, qui vivait le sionisme comme une conséquence de sa foi. Ces trois personnages figurent parmi les révisionnistes les plus actifs de Tunisie. Le premier, aîné de la famille, est à l'origine de l'organisation du courant révisionniste, qu'il suit d'ailleurs dans son déplacement de Sfax à Tunis à la fin des années 1930. Le second est un membre actif du mouvement créé par son frère, et en sioniste convaincu, il fait même son aliyah en 1950. De son côté, Félix Alouche, ancien élève de l'école de l'Alliance israélite universelle à Sfax, pénétré de culture juive sans être lui-même très pratiquant, a une approche radicalement différente du sionisme de celle de Nessim Louzoun. Son sionisme ne découle pas de sa foi, mais est conçu finalement comme le seul moyen de sauvegarder l'identité juive, à laquelle il est très attaché par ailleurs. Soucieux de répandre ses idées, Félix Alouche a l'idée de doter le courant révisionniste d'un organe de presse, y voyant un outil efficace pour agir sur l'opinion et convaincre la jeunesse de se rassembler autour du révisionnisme. C'est ainsi qu'est créé en 1924, à l'initiative de Félix Alouche, un journal révisionniste, Le Réveil Juif, dont le rédacteur en chef n'est autre que Ferdinand Lop, un juif de France installé en Tunisie et qui deviendra célèbre plus tard par ses facéties au Quartier Latin et son statut de candidat permanent et folklorique à la présidence de la Troisième République. Le Réveil Juif se révèle très vite un outil de propagande efficace, puisque grâce à lui, le courant révisionniste né à Sfax s'étend dans tout le pays, en particulier à Tunis et à Sousse, attirant à lui des militants de qualité, principalement des intellectuels. Cependant, ce journal n'est pas sans heurter une partie de l'opinion juive tunisienne, mais également l'opinion musulmane, combattant pêle-mêle les traditionnalistes, le groupe La Justice, les autres tendances sionistes et les Arabes. Il est à l'origine de violents incidents entre juifs et musulmans à Sfax en 1931 et 1932, tandis que Félix Alouche fait personnellement l'objet de plusieurs manifestations d'hostilité. Tant et si bien que, à la demande des autorités qui craignent des heurts violents entre Arabes et juifs, il est mis fin à l'activité du Réveil juif en 1932. Quittant alors Sfax pour Tunis, où il devient salarié d'un journal d'information générale, Tunis Soir, Félix Alouche n'a de cesse de vouloir recréer un journal sioniste révisionniste. Après diverses tentatives infructueuses, la Gazette d'Israël voit finalement le jour en 1934 grâce au concours financier de Victor Guez. Ce fils de rabbin, devenu le premier exportateur d'huile d'olive, mais aussi élu délégué au Grand Conseil de Tunisie, fonction politique qu'il n'hésite pas à mettre au service de la communauté, il est un juif pratiquant et surtout profondément sioniste, tenant plus que tout à la création d'un État juif en Palestine. Il accepte par conséquent de financer un journal sioniste sans se mêler plus avant de son orientation politique, sioniste, révisionniste, socialiste, kibboutznik, etc. À partir de 1934, la Gazette d'Israël paraît régulièrement, non sans quelques interruptions liées entre 1934 et 1936 à la censure, et entre 1940 et 1943, bien évidemment, à la guerre. En raison de désaccords internes au mouvement révisionniste, Félix Alouche quitte ainsi ce journal. S'il prend ses distances également avec le parti révisionniste, il reste un fervent sioniste, animant l'émission hébraïque de Radio Tunis entre 1950 et 1952. En cette même année, 1952, il est l'objet d'une tentative d'assassinat de la part d'éléments d'historiens. Il fait son alia 2 ans plus tard, en 1954, devenant le correspondant de Paris Match en Israël. En Israël toujours, il crée un journal francophone qu'il appellera une nouvelle fois la Gazette d'Israël. Après la guerre, c'est André Semama, journaliste français des militants des jeunesses socialistes, venu au sionisme pendant la guerre sous l'effet des lois raciales, lesquelles le décident à se battre en tant que juif, qui devient rédacteur en chef de la Gazette, fonction qu'il assume jusqu'à son alia en 1950. Il devient alors le correspondant du Monde en Israël, mais quitte ce journal en 1977 en raison de des positions anti-israéliennes du journal et devient par la suite correspondant de l'ORTF en Israël jusqu'à son décès en 1984. Succède à la tête de la Gazette d'Israël, à André Semama, le français Victor Aouzi, militant du Betar, donc de la droite dure, originaire d'Algérie, secrétaire administratif du parti révisionniste et vice-président de la Fédération sioniste de Tunisie. Grâce à la Gazette, le courant révisionniste jouit en Tunisie d'une audience certaine. Il s'implique d'ailleurs, événement très important, dans les élections communautaires de 1947. Il faut dire que pour les sionistes, il est important qu'à la veille d'événements majeurs pour le destin du futur État juif, le Conseil de la communauté non seulement ne soit pas hostile au mouvement sioniste, mais en outre puisse même reprendre ses revendications à son compte, tant vis-à-vis des autorités que pour favoriser la alia d'un grand nombre de juifs. Face à la liste du président sortant, Félix Samama, qui ne souffle mot de la question sioniste et se contente de prôner l'amitié judéo-franco-tunisienne, Elie Nataf, président honoraire, reprend du service à la demande pressante du parti révisionniste que lui remettent en main propre Elie Louzoun et André Semama. Les révisionnistes considèrent avec raison qu'il est le seul à avoir l'autorité et le prestige suffisant pour faire l'union de toutes les tendances sionistes. Réunissant toutes ces tendances de la Régence, du Bétard à la Chomer Hatzair, il défend dans son programme la création d'un État juif en Palestine, rompant ainsi avec la tradition de neutralité politique de la communauté. La liste dont il prend la tête se veut représentative des différentes tendances sionistes présentes en Tunisie. Elle compte ainsi 5 révisionnistes, 2 sionistes religieux, le rabbin Raka et le docteur André Brami, 2 membres de la Chomer Hatzair, le docteur William Jaoui et Albert Toubiana, 2 membres du mouvement des sionistes généraux, Clément Seroussi et Gaston Cohen-Solal, et 1 Mapai, donc l'extrême gauche du mouvement sioniste, René Cohen-Adria. En fin de compte, après les élections, la communauté juive de Tunisie a à sa tête plusieurs membres du parti révisionniste. Albert Mimoun, commerçant, est chargé de la culture juive et de l'administration de la Grande Synagogue. 5 sont à l'Assemblée, Victor Aouzi, employé de banque, Moïse André Sall, instituteur à l'Alliance et que nous retrouverons ensuite, Albert Mimoun, également commerçant, Sauveur Mamou, employé de banque, et Moïse Jaoui, libraire. Parmi ces 5 personnes, 3 sont français et 2 de nationalité tunisienne. La présence de révisionnistes dans les instances dirigeantes de la communauté se poursuit puisqu'aux élections suivantes, en 1951, Victor Aouzi devient membre du Conseil. Cette présence est particulièrement intéressante puisque je vous rappellerai qu'à la même époque, en France, aucun révisionniste ne fait partie de la direction de la Fédération sioniste de France. C'est à la lueur de ce contexte donc très spécifique, marqué par un courant révisionniste fort, qu'il convient de lire les prises de position défendues dans la presse communautaire juive tunisienne au sujet d'Israël. Prise de position dont va maintenant nous parler Sophie.
Merci. Donc la Gazette d'Israël se présente en 1948 comme un hebdomadaire vendu au prix de 10 francs, avant de passer à 12 francs le 14 octobre 1948, une augmentation justifiée par l'augmentation des prix de fabrication. Cette Gazette d'Israël est pour moitié consacrée à Israël. Les informations sur les fêtes juives et la paracha de la semaine, ainsi que les informations sur les juifs d'Afrique du Nord et du reste du monde, constituant l'autre moitié. Les pages consacrées à Israël traduisent un profond sentiment sioniste, ainsi qu'une position révisionniste nettement affirmée. Alors, commençons déjà par ce sentiment sioniste profondément ancré dans la communauté tunisienne. Donc la Gazette d'Israël ne cache pas ses sentiments profondément sionistes, et ce dès la couverture qui arbore une carte d'Israël. Sur la couverture de la Gazette d'Israël, on voit la carte. Les quelques articles qui se veulent simplement informatifs révèlent un sionisme prononcé. Ainsi est mise en exergue une déclaration d'un porte-parole de la Haganah affirmant à propos des personnes déplacées dont nous a parlé Ariel tout à l'heure, « Nous ne passerons pas un autre hiver dans les camps d'Europe ». On trouve encore une déclaration du maire de Tel Aviv selon laquelle « Les Juifs de Palestine sauront défendre leur vie et leur statut national ». Le journal invite par ailleurs à aller à la rencontre des sionistes généraux. Plusieurs articles, probablement repris du périodique sioniste français « La Terre retrouvée », portent sur la vie du Yishuv, décrivant précisément ses réalités économiques, culturelles et sociales. Les incitations à l'Alia sont par ailleurs innombrables. Par exemple, le numéro 103, daté de mars 48, donc avant la création de l'État hébreu, comporte en page 2 un article intitulé « Le devoir de chaque juif, apprendre l'hébreu moderne ». Dans cet article, on découvre que le Conseil de la communauté propose depuis juin 1947 des cours d'hébreu dans des locaux des écoles de l'Alliance, rue Malta-Srira, et dans le quartier de la Haftia le soir. En outre, la parole est donnée à des personnalités ou des organisations très favorables à la création d'Israël. Ainsi, on trouve dans le numéro 94 de janvier 1948 un article signé de M. Filonenko, qui est alors professeur à l'Université de Bruxelles et avocat à la Cour de Paris, donc un article en faveur de la liberté d'immigration en Palestine. Dans le numéro 95, Arnold Douyeb interpelle avec lyrisme, je cite, « Les jeunes juifs, il faut que vous réalisiez pleinement cette grâce que vous fait le ciel. Les larmes et le sang de vos frères ont servi à ce qu'aujourd'hui vous soyez les témoins de la résurrection d'Israël. L'espoir de 2000 années n'a donc pas été vain. Abandonneriez-vous cette chance sublime que vous offre le ciel? Laisseriez-vous éteindre la flamme alimentée par leur sang? Auriez-vous le cœur de ne pas songer au bonheur de ceux qui viendront? Car ce sera aussi votre bonheur. Mon frère, à l'heure où je te parle, des juifs se battent de par le monde, pour t'assurer un petit lopin de terre. Des juifs se battent pour qu'Israël vive. Peux-tu, un seul jour de ta vie, ne pas penser à eux? Non, non, tu le dois. La voix de ta conscience te l'ordonne. C'est le moment ou jamais. Quand je te demande de penser à eux, mon frère, commence par le faire par l'esprit, puisque tu ne peux pas le faire par l'action. Apprends les secrets de la langue. Apprends l'histoire de la vie de ton peuple à travers les siècles. Lis les vies des grands hommes qui illustrent et qui ont illustré la vie du judaïsme. Réfléchis sur les problèmes religieux. Puis tu verras, tu sentiras naître en toi ce sentiment de la patrie, cette nostalgie de la terre des siens. Ces propos d'Arnold Douyeb sont un exemple de ce qui fait le leitmotiv de la Gazette d'Israël, encourager à l'apprentissage de l'hébreu et avec évidemment en filigrane encourager à l'alien. Bien entendu, ce profond sentiment sioniste s'exprime avec force au moment même de la création d'Israël, qui donne lieu à un récit des festivités organisées pour l'occasion partout dans le monde. La chronique de Victor Aouzi, parue dans le numéro 114 daté du 20 mai 1948, est à cet égard révélatrice de l'enthousiasme soulevé par la défense d'Israël. Je cite là aussi Victor Aouzi, « Il est des jours qui comptent aussi bien dans la vie d'un homme que dans celle d'un peuple. La journée du 5 Ayar 5708 est de cette catégorie de jours qui reste gravée dans notre cœur. Le 5 Ayar 5708 a rompu la plus lourde chaîne qui liait notre peuple depuis 2000 ans. Il est des événements qui se passent de commentaires. Pour celui qui, pendant des dizaines d'années, contre vents et marées, a cru dans le sionisme, sa brusque réalisation ne peut provoquer en lui qu'une joie profonde qui lui ôte tout réflexe. Pendant de nombreuses années, il a fallu surmonter des obstacles sans nombre pour faire admettre la vérité sioniste. Il a fallu vaincre les prétentions, détruire les hostilités nocives, dissiper les incompréhensions, abattre le scepticisme, inspirer l'esprit rénovateur, inculquer la foi en la pérennité de nos valeurs permanentes. Tout cela a été accompli simplement par la foi d'un peuple qui ne voulait pas mourir. Et si aujourd'hui nous voyons luire l'aube d'une ère nouvelle pour notre peuple, sachons être à la hauteur de la grandeur de l'événement pour l'avoir mérité. Nous avons maintenant notre État, sachons agir pour le conserver. Donc on remarque là aussi le lyrisme de ces propos tenus à l'occasion de la naissance d'Israël. Quelques mois après cet événement, les auteurs de la Gazette n'ont de cesse de souligner les succès d'Israël. Ainsi, en octobre 48, Victor Haouzi, toujours lui, se félicite, je cite, que désormais sur tous les terrains agricoles, industriels, scientifiques, militaires, Israël a fait la démonstration magistrale de ses capacités à se gouverner lui-même. Le soleil de la liberté s'est levé vers Israël dans sa patrie retrouvée. La voie du retour massif à Sion est ouverte. La célébration de Hanouka en Israël en décembre 48 est, selon les rédacteurs de la Gazette, une occasion pour la diaspora de saluer les nouveaux Maccabim d'Israël. Cependant, cet enthousiasme que je viens de décrire ne doit pas cacher les critiques que soulèvent les conditions dans lesquelles s'opère la création d'Israël.
En effet, la Gazette d'Israël, fort de nombreux rédacteurs sensibles à cette idéologie, s'affiche clairement comme révisionniste. Le numéro 94, par exemple, propose ainsi de connaître le parti révisionniste en Hollande. Le numéro suivant titre en première page sur la demande des révisionnistes au sein du Yishuv, demande des révisionnistes favorables à un gouvernement provisoire, à la dissolution des organisations paramilitaires et à la constitution d'une armée régulière. Il s'agit donc d'une opposition très claire à la politique voulue par David Ben-Gourion au même moment. Cependant, ce qui frappe surtout à la lecture de ce journal, ce sont les prises de position extrêmement tranchées des membres du comité de rédaction, prises de position montrant les Britanniques du doigt. Ainsi, le 1er janvier 1948, Jacques Sebag, Tunisien devenu membre du parti révisionniste sous l'effet des lois raciales pendant la Seconde Guerre mondiale, lois raciales qui l'ont empêché de poursuivre ses études, signe un article très virulent contre Tunis socialiste, lui reprochant de se faire, je le cite, le champion de la bagarre dans le Moyen-Orient, notamment en réduisant la lutte en Palestine à une opposition entre Arabes et Juifs, omettant de la sorte le rôle des Anglais et de l'impérialisme travailliste. Il accuse à mot couvert le journal tunisien de diffuser de fausses informations au sujet du camp juif. Le périodique socialiste aurait ainsi insinué que l'unification des forces juives était impossible, alors même que des pourparlers venaient d'être engagés entre la Haganah et l'Irgun. À compter de février 1948, la Gazette d'Israël consacre de nombreux articles aux combats se déroulant en Palestine. Par exemple, dans le numéro du 25 mars, on explique « Dans toute la Palestine, les attaques et les contre-attaques se succèdent. Voici le film des combats de la semaine. » Et propose ainsi une description précise des combats. Combats qui nourrissent des articles très engagés, consistant pour la plupart à accuser les Anglais d'en être à l'origine. Ainsi, le 26 février 1948, Moïse Sall signe un article très virulent contre les Anglais. Français issu d'une famille bourgeoise ruinée par la crise des années 30, cet instituteur de l'Alliance, fait prisonnier pendant la guerre, et non seulement membre du Conseil de la Communauté sous la présidence d'Elie Nataf entre 1947 et 1951, mais surtout en raison de ses titres militaires qui lui servent de caution auprès des autorités françaises, secrétaire général du parti révisionniste. Une semaine plus tard, il explique toujours en une « Le conflit est judéo-anglais. La Grande-Bretagne a son petit plan. User les juifs jusqu'au départ décidé, puis les livrer à l'extermination après le départ pour revenir toute puissante économiquement par un accord anglo-palestinien. Bevin, alors ministre des Affaires étrangères britannique, qui est un froid calculateur, ne recule devant aucun moyen. » Et l'auteur de cet article, de déplorer que les Juifs aient accueilli le partage de la Palestine avec enthousiasme. Pour lui, il n'y a qu'une chose à faire. La solution demeure l'entente sémite autour d'un objectif unique, abattre ceux qui veulent la disparition des Juifs, en l'occurrence, en particulier, les Anglais. À cette haine des Anglais s'ajoute une grande déception vis-à-vis des Américains qui ne soutiennent pas suffisamment à ses yeux le Yishuv. Le 22 avril 1948, dans le numéro 110, soit à moins d'un mois de la création de l'État d'Israël, Moïse Sal résume sa vision des choses. Pour lui, on a compliqué à plaisir un problème des plus simples. Entre juifs et arabes, il n'y a jamais eu que des conflits artificiellement créés. On a su mettre dans l'ombre tout ce qui pouvait contribuer à l'entente pour favoriser à la place les fanatismes et la haine. Une situation dont les responsables sont facilement désignables, je le cite une nouvelle fois, les gouvernements anglo-saxons, agences de la grosse finance et des consortiums du pétrole, les féodaux de la Ligue arabe, ligue qui n'a d'arabe que le nom, mais qui en réalité travaille pour les intérêts impérialistes de la Grande-Bretagne, et enfin les dirigeants officiels du sionisme pleutres. La perspective de la création proche d'Israël, si elle soulève un vent de joie, n'en est pas moins teintée d'amertume, amertume toujours tournée contre les Anglais. Ainsi, dans le numéro qui paraît à la veille de la création d'Israël, le 13 mai, se mêlent joie et regret. Joie nourrie par la naissance d'Israël, demain vendredi à minuit, les maillons de la chaîne de notre histoire nationale seront scellés à nouveau. Après 19 siècles, que dire en un pareil moment ? Les mots sont trop faibles et le raisonnement impossible devant le bouillonnement d'un malheureux cerveau qui, sa vie durant, a attendu, a rêvé cet instant. La vie nationale juive, rompue par les légions romaines, reprend son rythme demain à minuit. L'aurore va paraître, chargée d'espérance. Pour Israël, vivre ne sera plus une gageure. Demain, oui, demain à minuit, l'État juif. Cependant, au-delà de ce lyrisme toujours très spectaculaire, le chroniqueur est réaliste. L'État juif dans une Palestine mutilée, sanglante, parce que telle l'a voulu l'Angleterre. Et l'on retrouve donc toujours le même thème dans la Gazette d'Israël. Si l'État, le nouvel État juif, est en proie aux difficultés, ce n'est pas sa faute, puisqu'il n'a pas retiré la main fraternelle qu'il a tendue aux Arabes de Palestine. Parce qu'il sait, le monde entier sait, qu'on empêche les Arabes de Palestine de serrer sa main, et ce, à cause des Anglais. On retrouve le même sentiment d'amertume une semaine plus tard, le 20 mai, sous la plume cette fois de Sylvain Lambroso. Cet originaire de Sfax, issu d'une riche famille d'origine livournaise, venu au sionisme par l'intermédiaire de son confrère et ami Alfred Rossi, qui a été chef du parti révisionniste avant la Seconde Guerre mondiale, s'est illustré dans la résistance pendant le conflit et s'est engagé avec ardeur dans le mouvement révisionniste dont il a cherché vainement, Moïse lui est finalement préféré, à prendre la tête suite à l'annonce de la mort d'Alfred Rossi, fusillé par les Allemands en Italie au cours d'une mission clandestine. Sylvain Lambroso écrit ainsi en une, le 14 mai 1948, en cet instant fugitif qui divise en deux la nuit, naissait, non ressuscité, l'État d'Israël. Et maintenant c'est la guerre. Non pas contre les Juifs, cette guerre de libération qui honore l'agresseur. Non pas pour les Arabes, cette guerre sainte pour la foi. Mais une guerre fratricide, inutile. Mais une guerre froidement préparée par l'étranger, le seul ennemi. Et Lambroso de montrer à son tour les Anglais du doigt. Pendant que Juifs et Arabes, ces peuples de même sang, de même origine, s'entre-déchirent au lieu de s'entraider, les soldats de sa gracieuse majesté le roi George consolident leur position dans tout le Moyen-Orient, de Tripoli d'Afrique à Tripoli de Syrie. Pour Lambroso, la création de l'État d'Israël représente pour les Arabes, qui ne sont en fait que les dupes de l'impérialisme qui les a toujours opprimés, la première étape, l'étape décisive de leur propre libération. Et les rédacteurs de la Gazette de diriger cette fois-ci leur critique contre les dirigeants sionistes officiels, en particulier contre la Haganah, leur préférant de loin, fort logiquement, les Rouns. Ainsi, en janvier 1948, il laisse la parole au Shilton Beta, qui dans une tribune intitulée « À notre peuple et à notre jeunesse » a des termes sans équivoque contre le mouvement dirigé par David Ben-Gurion. La décision historique de l'ONU n'est pas le résultat de l'intervention des chefs sionistes officiels. Le combat politique de l'agence juive, conduit sous la forme de déclarations verbales, n'aurait pas pu amener le problème juif dans le forum international. C'est l'activisme de la jeunesse juive en Palestine qui est la cause réelle de cette évolution. Si notre peuple avait eu des dirigeants plus jeunes, pleins de foi et prêts à l'action, et si tout le Yishuv avait été mobilisé pour le combat, nous aurions pu obtenir maintenant un État juif en Eretz Israël, un État intégral et non partagé. Quelques numéros plus tard, Victor Haouzi consacre lui un article à l'Irgun, cette force militaire qui s'oppose aux Anglais et aux Arabes, mais également à la Haganah par moment, et cet Irgun qui est un porte-parole en Europe qui affirme que les Juifs de Palestine peuvent non seulement défendre le Yishuv, mais aussi constituer un facteur de première importance en Méditerranée, au détriment de la Haganah. De même, le numéro 102, daté du 26 février 1948, montre des combattants de l'Irgun dans Jérusalem, tandis que parallèlement, Moïse Sal n'a de cesse de reprocher aux éléments dits de gauche du mouvement sioniste, groupés au sein de la Histadrut et organisateurs de la Haganah, d'avoir jeté l'anathème sur les dissidents de l'Irgun et du Stern, qui dénonçaient la duplicité anglaise et agissaient contre elle. Une vision qu'il précise quelques semaines plus tard, en dénonçant les dirigeants officiels du sionisme, aveugles, prêts à toutes les renonciations pour la conservation de postes lucratifs et honorifiques, faisant leur renommée sur les exploits de nos combattants obscurs, trahissant chacun de leurs succès, vilipendant ceux qui meurent pour leur idéal, adoptant toujours avec un temps de retard les mesures de salut qui s'imposent, fourrier de l'impérialisme anglais pendant une bonne période de l'histoire sioniste, conservant encore aujourd'hui l'espoir d'un appui anglais ou américain. Toutefois, c'est surtout avec l'épisode du bateau Altalena Jabotinsky de juin 1948 que se cristallisent les critiques dirigées contre le sionisme officiel, contre la dictature du gouvernement de Ben-Gourion. Il s'agit en fait du bombardement par la Haganah d'un bateau rempli d'armes affrété par l'Irgun au moment où la Haganah précisément avait signé un accord de cessez-le-feu avec les puissances arabes. À l'occasion de cet incident, on peut lire dans le numéro du 24 juin 1948, en une, que le gouvernement a manqué de sang-froid. Il a fait ainsi le jeu de l'Angleterre, qui a toujours misé sur la division des peuples pour asseoir sa domination. Et l'éditorial de mettre en avant le mérite de l'Irgun, qui depuis fort longtemps, avec un patriotisme ardent et éclairé, a mené son combat. Aux provocations de la Haganah, il s'est toujours gardé de répondre. Pour les rédacteurs de la Gazette d'Israël, une solution s'impose. Le gouvernement sait aujourd'hui qu'il ne pourra pas gouverner contre la volonté du peuple et que la politique des concessions perpétuelles est irrévocablement close. Et, d'après Moïse Sal, il faut absolument que le gouvernement libère les prisonniers politiques juifs des geôles israéliennes, c'est-à-dire les membres de l'Irgun qui se sont opposés brutalement en commettant des actes terroristes au gouvernement de Ben-Gourion. Plus largement, il importe désormais que les Juifs s'unissent. Le 15 juillet 1948, Moïse Sal affirme ainsi que l'union est la condition de la victoire juive. Les rancœurs des uns et des autres ne doivent pas subsister. Cependant, en cet été 1948, 3 mois après la création de l'État d'Israël, la déception est encore de rigueur. En effet, on reproche au gouvernement israélien d'avoir décidé d'une trêve en laquelle il voit un obstacle à une grande victoire israélienne. Il condamne de plus le plan Bernadotte, désignant le comte Bernadotte comme un agent de l'Angleterre. Cependant, on ne trouve rien sur la déchéance de ce plan qui visait à la création concrète de 2 États, l'un juif et l'autre arabe. En mars 1949, les rédacteurs s'inquiètent encore. « Va-t-on laisser l'Angleterre allumer la guerre en Orient ?» titre-t-il, faisant ainsi allusion à l'arrivée d'officiers britanniques venus aider l'armée transjordanienne. On le voit, près d'un an après la création d'Israël, l'inquiétude prime dans la Gazette d'Israël quant au futur du jeune État, un sentiment qui s'accompagne toutefois de confiance et d'optimisme pour l'avenir lointain.
cette rapide analyse de la presse juive tunisienne nous permet de mieux cerner l'état du sionisme en Tunisie au moment de la création de l'État d'Israël. Une situation qu'on peut appréhender à l'aune des difficultés que connaît la Gaza d'Israël au début des années 1950, mais aussi à partir d'un rapide descriptif de l'Aliya tunisienne. Donc je peux déjà m'intéresser aux difficultés de la Gaza d'Israël qui, selon nous, sont un symptôme de la situation complexe du sionisme en Tunisie. Le sionisme, s'il apparaît un sentiment très ancré dans la communauté juive de Tunisie, n'est cependant pas bien accepté par les autorités, comme en témoigne l'épisode suivant. Courant 1948, la Gazette d'Israël est soumise à la censure. Non seulement le numéro 115, daté du 27 mai, est retiré des kiosques par la police, mais en outre, apprend-on en page 1 du numéro 116 du 3 juin, qu'il a été notifié au journal, je cite, « sous une forme pour le moins combinatoire d'avoir, primo, à soumettre désormais le journal à l'approbation de la résidence générale avant sa distribution, secondo, de supprimer la carte qui orne notre titre et symbolise la revendication traditionnelle de ceux que l'on appelait les sionistes politiques. » Et donc, si le journal ne se soumet pas à ces deux impératifs, il est menacé de suspension et son équipe se trouve passible de poursuites judiciaires. Donc, la Gazette d'Israël se trouve à ce moment-là face à un véritable dilemme qu'elle résume en ces termes. Priver le judaïsme nord-africain de son organe et se conformer aux ordres et perdre notre indépendance. Et face à ce dilemme, le comité de rédaction tranche. Supprimer la carte de notre titre tout en refusant la moindre censure. Et l'article donc du numéro du 3 juin qui paraît après le numéro suspendu, censuré, se finit sur une note optimiste. La Gazette d'Israël reste et restera malgré tout fidèle à sa ligne de conduite, fidèle à sa mission. Autrement dit, à compter de juin 1948, la Gazette d'Israël paraît à nouveau, donc après une suspension du numéro du 27 mai, mais elle ne comporte plus en une la carte d'Israël qui l'ornait depuis ses débuts. Donc, toutefois, il ne faut pas. La continuation de l'apparition ne signifie pas pour autant que le journal garde tout à fait sa ligne. Les numéros 117 et 118, donc ceux qui paraissent suite à la censure, ils ne contiennent que des articles descriptifs. Aucune opinion n'y est exprimée. Et il faut attendre en fait l'édition du 24 juin pour trouver à nouveau des prises de position prononcées à l'occasion de l'épisode de l'Altalena qui vient de vous être présenté par Ariel. Donc on le voit, la Gazette d'Israël a rencontré des difficultés en Tunisie avec les autorités. À ces difficultés s'en ajoutent d'autres, qui sont cette fois-ci internes au mouvement révisionniste et au comité de rédaction de la Gazette. Ainsi, la Gazette perd un certain nombre de ses rédacteurs en raison de mésententes internes. En premier lieu, son fondateur quitte non seulement le journal, mais aussi le parti révisionniste. De même, Sylvain Lambroso démissionne du parti en 1949 pour rejoindre le mouvement des sionistes généraux qu'il préside pendant un an. Moïse Saal, rédacteur à la Gazette, quitte à son tour le parti révisionniste à la fin de l'année 1950 en raison d'un désaccord avec Victor Haouzi. Ces défections témoignent des difficultés du courant révisionniste en Tunisie et plus largement de désaccords autour du sionisme au sein de la communauté juive de Tunisie. Peut-être peut-on voir dans la parution à partir du 3 mai 1950 du journal Les Nouvelles Juives une réponse à ces désaccords. En effet, ce titre, vendu au prix de 20 francs, se présente justement comme un périodique au-dessus des clans. Ce journal, qui a été fondé donc par Isaac Abouaf, par ailleurs mécène du mouvement UJJ, dont il était l'un des dirigeants, se propose, je cite, « d'informer ceux qui, n'étant affiliés à aucun parti, veulent suivre de près l'actualité, connaissant les divers courants idéologiques, sans faire une idée personnelle, tout en gardant la liberté de la réflexion et du choix. » Autrement dit, on a là un organe qui se veut au-dessus de la mêlée. Hein. Il ne veut pas prendre parti, il se veut simplement informatif. Et de fait, ce feuillet de 4 pages reprend pour l'essentiel, quand il s'agit d'évoquer Israël, les dépêches de l'agent juif télégraphique. Les Nouvelles Juives visent donc en premier lieu le consensus autour du sionisme. Et je cite à nouveau un article qu'on trouve dans le premier numéro du journal. C'est l'unité de la destinée juive qui, après 2000 ans de déracinement, a permis la résurrection d'Israël. La création du jeune État est l'expression créatrice de cette unité. Des liens indestructibles existent entre Eretz et la diaspora. Des liens qui, pendant des années encore, se traduiront par un échange constructif, tendant à assurer à notre peuple une vie normale, une place digne à côté de toutes les nations libres. Et les rédacteurs du journal d'affirmer à l'aube de la nouvelle année juive, en septembre 1950, « L'État d'Israël est là. Peut-on souhaiter preuve plus éclatante de notre vérité ?» On a donc là un journal qui souhaite l'unité de la communauté juive autour du sionisme, par-delà donc les différentes tendances qui peuvent s'exprimer au sujet du sionisme. De son côté, la Gazette d'Israël, faute de financement, Victor Gaz ayant cessé de la subventionner en raison des critiques adressées par le journal contre son ami Elina Taf à propos du CJM et de la Fédération des communautés, donc la Gazette cesse de paraître autour de 1952-1953 et avec elle s'éteint la voie du révisionnisme en Tunisie. Par-delà ce rapide état des lieux du sionisme en Tunisie, il est intéressant aussi d'essayer de voir quel a été à cette même période le mouvement d'Alia des Juifs de Tunisie vers Israël. Alors le seul passage en revue des membres de la Gazette et du parti révisionniste permet de voir que les tenants de ce mouvement n'ont pas trahi les idées qu'ils ont défendues dans leur journal. C'est ainsi que le rédacteur en chef André Semmama fait son alia, de même que Jacques Sebag, membre du comité de rédaction. Parmi les rédacteurs réguliers de la Gazette, on note également l'alia de Moïse Saal. De même, on observe l'alia des principaux membres du parti révisionniste de Tunisie, à l'instar notamment d'Ephraïm Louzoun ou encore de Victor Haouzi. Cela étant, par-delà ce rapide passage en revue des membres de la Gazette et du parti révisionniste, un article paru dans la vie juive, un article signé d'Isaac Chebabo, qui était originaire de Libye, correspondant du CJM en Tunisie. Cet article paru dans la vie juive permet de cerner l'état du sionisme en Tunisie près de 2 ans après la création d'Israël. En effet, on peut lire, donc en 1950, dans l'article intitulé « Problèmes actuels du judaïsme tunisien », je cite, la déclaration de l'État d'Israël en mai 1948 fit luire une aube nouvelle pour des milliers de juifs de Tunisie. Le sentiment religieux qui, à travers les siècles, s'est conservé chez les gens du Sud dans sa pureté et sa ferveur, l'action inlassable de vieux militants qui, depuis 39 ans, forment les jeunes dans l'idéal sioniste, tout cela et d'autres facteurs d'ordre économique ou social expliquent ce véritable élan mystique qui a poussé des masses entières à se préparer fébrilement au départ. Cette première vague d'émigration était loin d'être homogène et il est bon d'en distinguer les principales couches. Il y a d'abord la jeunesse organisée, préparée culturellement et parfois professionnellement, qui a trouvé aisément sa place en Israël. Puis viennent les juifs de l'intérieur, petits artisans ou commerçants, habitués déjà à la vie dure, qui arrivent, non sans difficulté, à s'adapter aux conditions qui leur sont offertes là-bas. Enfin, ceux des grands centres urbains, principalement de Tunis, qui n'ont pas toujours de métier défini ou qui exercent certaines activités telles qu'employés, représentants, intermédiaires ou courtiers, ceux-là, pour la plupart, ont échoué dans leurs tentatives. Autrement dit, d'après cet article, il y a donc des juifs de Tunisie qui se sont parfaitement intégrés en Israël, d'autres avec plus de difficultés, mais qui malgré tout ont réussi à trouver leur place dans ce pays, et enfin certains qui ont échoué dans leur alia. Et donc cet article me semble aussi un peu montrer qu'au sein de la communauté juive de Tunisie, il y a différentes tendances qui s'opposent, différentes catégories d'individus qui chacune ont leurs caractéristiques.
Et donc au terme de cette étude, nous voyons bien qu'à l'instar de toutes les communautés juives de diaspora, les juifs tunisiens se réjouissent sincèrement de la création de l'État d'Israël, dont ils célèbrent avec ferveur l'anniversaire, comme en témoigne la description par la vie juive du Yom HaAtzmaout, de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël en 1950 à Tunis, festivité auxquelles participent plusieurs milliers de personnes. L'idéologie sioniste est bien implantée en Tunisie, d'autant plus que finalement les seuls journaux juifs qui y sont publiés sont d'obédience sioniste, contrairement à ce qui se passait au même moment en France ou aux États-Unis. Si la Gazette d'Israël est de tendance révisionniste, il ne faut cependant pas conclure trop rapidement à une prédominance très marquée de cette mouvance au sein des Juifs de Tunisie. La Gazette d'Israël constitue au final un bon journal d'information, mais avec une vision politique souvent dénuée de réalisme, notamment en ce qui concerne le problème israélo-arabe, interprété uniquement comme étant dû à la politique anglaise. Cette volonté toujours affirmée de la possibilité d'une coexistence entre juifs et arabes au Moyen-Orient étant peut-être néanmoins liée à la situation intérieure des juifs en Tunisie. Les juifs de Tunisie se montrent ainsi au début des années 50 très intéressés par cet état d'Israël renaissant, mais se questionnant comme les autres communautés de diaspora sur la relation qu'ils doivent avoir avec cet état dont ils se sentent proches, mais dont ils ne sont toutefois pas citoyens. Je vous remercie.
Bon, ben j'espère que c'est bon, hein. Merci. C'est très bien. Très bien. C'est dur, hein. Très dur. C'est très bien. Bravo. Bravo Ariel. Bravo. Bravo. Bravo.
Merci beaucoup.
Bravo maman.
D'accord, promis.
Toujours. Donc je devrais l'avoir là, hein, dans ce petit machin. Ça devrait être là. Sinon tu as toutes tes notes.
Oui.
D'accord. Mais je pensais à quelque chose. Je te dirai ça après. Merci.